Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Muriel van der Meulen, et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu, produite par We Are the Words, l'agence que j'ai fondée et que je co-dirige. Bonjour et bienvenue dans cet opus de Un train peut en cacher un autre. Bonjour Frédéric. Un nouvel opus avec un thème que j'affectionne particulièrement, le blogging. Et j'ai le plaisir d'inviter au micro Frédéric Canevet de conseilmarketing.com. Bonjour Frédéric, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Ouais, bonjour, ben, merci de me recevoir. J'ai l'habitude de dire que je suis désormais un dinosaure du web, puisqu'en fait, je tiens un blog depuis 2006. Donc, ça fera quasiment 18 ans. C'est un blog qui est majeur maintenant et il a le droit d'avoir son émancipation. Donc, en plus d'être blogueur sur conseilmarketing.com, en fait, je suis également growth hacker chez Eloquent, qui est un éditeur de logiciels de centre de contact et d'enquête de satisfaction. Et donc là, je fais plutôt la génération lead. Je m'occupe pas trop de la partie blog en lui-même. Mais par contre, pour mon blog à moi, c'est mon petit bébé, c'est mon laboratoire. C'est là que je teste tout ce que je peux pas faire forcément au travail. Donc, c'est vraiment ce qui m'éclate un peu, c'est de faire des choses parfois originales qui sortent un petit peu du lot. Et surtout, de ne pas avoir de contraintes, parce que quand on est dans une entreprise, forcément, on a des contraintes un petit peu sur les lignes éditoriales, sur le contenu qu'on veut mettre en place, le ton et tout ça. Et donc, ça, c'est ce qui m'intéresse. Et en parler de ça, j'ai également publié plusieurs livres. J'ai co-écrit le livre « Le Growth Hacking » et j'ai publié aussi le livre « Réussir son projet chatbot ». C'était il y a quelques années, avant l'IA générative.
Avant l'IA générative, d'accord. Et puis, tu es très prolixe aussi sur Instagram, d'ailleurs, Frédéric.
Alors oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'essaye d'être présent sur tous les canaux, mais de manière défensive ou proactive. C'est-à-dire que il y a certains canaux de communication où j'ai décidé d'être présent de manière plus forte. Et justement, le blogging, pour moi, ça reste mon canal principal parce que j'ai un historique, j'ai un trafic, j'ai une facilité également à écrire, même si je suis dyslexique et ça a été très compliqué pendant des années. Mais donc voilà, en présence réelle, j'ai le blogging, raison historique, parce que j'aime bien l'écriture. Deuxième chose, LinkedIn, parce que tout simplement, en B2B, dans mon secteur d'activité, qui est la relation client et le growth hacking, c'est indispensable. Et après, j'ai une présence défensive sur la plupart des autres réseaux. C'est-à-dire que sur Instagram, en fait, je publie plutôt régulièrement des visuels, des petites vidéos, etc. Oui. Sur TikTok, c'est pareil. Sur Twitter, c'est pareil. Ce sont vraiment plus des présences défensives. Il y a juste sur Facebook où j'ai un petit peu délaissé le réseau parce que je trouve qu'il y a moins de reach naturel. Voilà.
D'accord. Très bien. Intéressant ce distinguo entre les canaux défensifs et du coup les autres, c'est des offensifs ?
Ah oui, c'est là où j'essaye vraiment de faire des efforts. Par exemple, sur le blog, je publie un minimum d'un article par semaine. Je suis plutôt même sur un rythme de deux le plus souvent, même si c'est des petits contenus, des gros contenus. Sur LinkedIn, en fait, j'étais beaucoup aussi sur un rythme qui était à peu près du même style, un post tous les deux, trois jours. Et là, depuis le début d'année, je suis en train de passer un post tous les jours pour compenser un petit peu la baisse du reach sur LinkedIn. Donc, c'est pour l'instant, je ferai un petit bilan dans un mois, parce qu'il faut quand même deux mois pour savoir si la publication tous les jours est intéressante ou pas. Et bien sûr, ces canaux-là, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit LinkedIn, etc., viennent en soutien du blog, parce que c'est un peu notre sujet du jour. Pour moi, en fait, le blog, en fait, c'est la présence centrale de ton activité sur Internet. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es sur LinkedIn, tu es sur Twitter, etc., etc., t'es pas présent sur ton propre réseau. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un blocage d'un compte LinkedIn, par exemple, parce que j'ai enfreint un petit peu les règles. Et pour être tout à fait franc avec toi, en tant que growth hacker, je tente vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et par exemple, j'avais quelque chose qui était totalement qui est interdit, c'est d'avoir plusieurs comptes. Par exemple, j'ai deux activités, mon compte en fait qui était consacré au marketing depuis des années et j'ai un compte relation client sur LinkedIn. Et bien, j'ai été dénoncé. Alors, une première fois, j'ai une petite alerte et bon, voilà, j'ai été dénoncé une deuxième fois. Donc, mon compte LinkedIn, bam, relation client qui comptait 7000 personnes, elle a sauté du jour au lendemain. Et d'accord. Donc, en fait, là, je suis en train de récupérer une partie de la visibilité là-dessus. Donc, c'est normal. Je savais que ça allait arriver. C'est le jeu. Mais donc, c'est pour te dire que grâce à ma présence sur mon blog et avoir ramené toutes les personnes sur mon blog, et ben tout simplement, et ce qui m'est arrivé, c'est que ben, j'ai pas perdu ma visibilité, j'ai pas perdu tout mon trafic. Il faut juste que je reconstruise un peu plus les choses. Donc le blog, c'est quelque chose qui est chez vous, c'est votre possession. Vous avez en plus la maîtrise du canal de communication quand vous récupérez les emails, et ça c'est indispensable parce qu'on en a bien vu. On parlait de publications tous les jours ou toutes les semaines sur LinkedIn. Ben, l'algo il change, tandis que votre blog, les emails, ben, là ça ne changera jamais.
D'accord. Très intéressant. Donc, premier message, le blog, c'est la plateforme centrale, c'est l'îlot central d'où tout part et qui sert aussi à diffuser, à ancrer du coup une présence dans cet écosystème.
Ouais. Ben, en fait, pour d'accord. moi, tout est lié. Par exemple, tu vois, même dans les deux sens. Je te donne un exemple. Moi, ça m'arrive de faire des publications LinkedIn qui sont assez longues. Tout le monde dit, ouais, non, il faut des petites publications. Non, moi, j'aime bien en fait avoir apporté de la valeur. Je me dis, les gens vont prendre du temps pour lire mon contenu. Eh ben, il faut qu'ils aient quand même quelque chose qui soit en valeur. Et je mets jamais de truc. J'ai fait un article sur tel truc. Consultez mon blog. Non, je donne au moins des extraits, des tips. Voilà. Et ça m'arrive de faire l'inverse. C'est-à-dire que il n'y a pas longtemps, toi, j'ai fait une série de webinaires. Je fais un résumé avec ChatGPT parfois du contenu. Je sors quelques trucs intéressants et je dis, bah voilà, le post est là. Si vous voulez en savoir plus, allez sur l'article de blog. L'article de blog, en fait, c'est une version un petit peu améliorée de la publication LinkedIn, mais tout part de la publication LinkedIn au départ. Et parfois, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le blog qui a un super contenu. Et je dis, waouh, celui-là, il faut vraiment le valoriser. Il faut vraiment qu'il soit intéressant. Et je vais tout simplement faire une ou plusieurs publications. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un article de blog, il peut vraiment être touffu. Il peut avoir plusieurs illustrations, il peut avoir plusieurs visuels. Et en fait, on peut renvoyer avec différents visuels, call to action, éléments dessus. Et ça, faut vraiment pas hésiter à le faire. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une série de j'avais un webinaire sur un sujet sur la relation client. Et donc, tout simplement, j'avais fait plusieurs publications LinkedIn où je mettais en avant la joignabilité, les bots, etc., etc. Donc, ça faisait 3-4 publications. Tout cela, en fait, je l'ai réécrit en faisant un blog post, parce qu'en fait, les publications LinkedIn étaient sur le webinaire direct, mais j'ai repris ça pour en faire un blog post qui était beaucoup plus évolué. Ce blog post, après, je l'ai transformé en un emailing qui va, en fait, vers ma solution de marketing automation. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut aussi partir du post LinkedIn pour envoyer vers une séquence de marketing automation si le contenu il va ou un emailing type newsletter, etc., etc.
Ce qui montre aussi toute la plasticité du contenu, toute cette capacité de surcyclage d'un contenu vers un autre, d'augmentation aussi, et puis de chunking. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est que tu as une stratégie aussi qui montre que parfois tu pars d'un snack content sur LinkedIn qui renvoie vers du long form sur le blog. Parfois, c'est l'inverse. Exactement. Mais tu crées aussi de l'interdépendance en fait entre des contenus selon les plateformes où ils sont.
Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes spécificités sur le blog. En fait, il y a des gens en fait qui me disent, moi, de toute façon, je regarde que les vidéos courtes. C'est pour ça que je me suis mis il y a un an sur la vidéo format 9/16 à la TikTok avec un sous-titrage. Pour ça, j'utilise Apiscrap ou SubMagic qui sont vraiment des très bons outils pour le faire. Et donc, en fait, ça, c'est des contenus spécialement faits pour les réseaux sociaux. Mais sur mon blog, bah là, je fais du contenu qui est vraiment lisible avec une structure. Mais on y viendra tout à l'heure. J'ai vraiment une ligne éditoriale et c'est important de marquer cette ligne éditoriale-là et d'avoir quelque chose qui est différent. Parce que je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins au niveau du blogging. Ça reste toujours extrêmement pertinent parce que les gens recherchent sur Google des mots-clés. Ils vont en fait à la recherche d'éditeurs ou de fournisseurs en fait clés sur des thématiques. Et pour cela, en fait, ils recherchent dans Google avec les pubs Google Ads et les articles.
Résultats organiques, oui.
Voilà, il faut absolument être présent là-dessus. C'est ça qui te permet d'être dans mon domaine, en tout cas hein, dans le B2B, d'être dans la top liste. Et c'est vrai que la semaine dernière, j'étais invité à une soirée networking et puis une personne me dit « Ouais, je vous ai connu parce que je cherchais un truc sur la culture client et j'ai trouvé quelque chose de super intéressant et j'ai vu votre article. C'est un contenu long, c'est un contenu qui montre de la valeur. » Et il y a vraiment une croisée des chemins actuellement parce que avec l'IA générative, on voit bien en fait qu'il est devenu facile de produire du contenu en masse. Et ça, en fait, quelque part, c'est en même temps une opportunité, mais une menace sur le blogging. Pourquoi oui. C'est une menace? Parce qu'en fait, il n'a jamais été aussi facile de produire du contenu. Avant, il y avait des rédacteurs offshore où il y avait une production de contenu qui était souvent variable selon la technicité du contenu, et on restait toujours un petit peu en surface. Et il y avait quand même un retravail qui était important à faire. Moi, j'ai essayé de trouver pendant des années des rédacteurs pour mon blog. Je n'ai jamais
trouvé
un rédacteur qui soit au niveau d'exigence que je le souhaite. Parce que tout simplement, moi, je veux faire passer de l'expertise. Le but, c'est pas de... j'ai tenté. Hein. Par exemple, j'ai demandé à mon assistante de m'écrire 80 articles sur des définitions marketing. Je les ai tous mis sur mon blog. Je les ai à peine relus. Il y en a certaines qui faisaient du trafic, d'autres qui faisaient zéro trafic. Celles qui faisaient du trafic, je les ai améliorées pour en faire un truc à peu près potable. Mais du trafic pourri, de mauvaise qualité, et surtout qui donne une mauvaise image de votre entreprise. Parce que si la personne voit ce contenu-là, elle voit un article qui est fade, sans saveur, ça donne une mauvaise image de votre entreprise. Tandis que si on est sur un contenu d'expertise, de la valeur ajoutée, on donne un petit
peu... De la personnalité, de la singularité.
Voilà, et la personne...
Et voilà, exactement. Et c'est d'ailleurs la première question, effectivement, si on la résume, c'est comment un blog peut-il avoir un positionnement unique dans un secteur et quel impact ça a sur la stratégie, le choix des sujets à traiter, Frédéric?
Alors, en fait, ça, c'est une très, très bonne question. Et je vais revenir vers le passé. Quand j'ai sorti mon blog en 2006, en fait, il n'y avait pas de contenu quasiment. Et donc, en fait, je parlais du marketing en général et je partageais mon expérience de marketeur quand j'avais un truc sympa, etc., etc. Au fil du temps, en fait, je me suis restreint. Je me suis revenu sur le marketing B2B. Et ensuite, c'était il y a 5-6 ans. Et là, maintenant, depuis 2-3 ans, je suis vraiment recentré sur quelques thématiques. Et encore, je pense que j'ai trop de thématiques parce que Google va vraiment chercher l'expert, la thématique sur un mot-clé. Et donc là, toi, ma thématique, c'est CRM, expérience client, growth hacking, tout ce qui est bots également. Et moi, par exemple, j'essaie de plus vraiment faire de content marketing, plus trop parler d'outils comme l'emailing, les salons et tout ça, mais vraiment de me concentrer sur ces secteurs, ces thématiques-là. Et encore, je pense que j'en ai trop. Il faut vraiment être focus et choisir cette thématique, bien sûr, selon ce qu'on a à vendre. Et là, on doit vraiment être beaucoup plus précis. Par exemple, si moi, je vais me dire, tiens, aujourd'hui, je voulais lancer une activité, et ben en fait, je choisirais une thématique sur laquelle je suis fort, qu'il n'y a pas trop de monde, et je deviendrais le spécialiste. Growth hacking, par exemple, je pense que c'est limite un peu trop. Je pourrais dire, par exemple, je suis spécialiste de LinkedIn, je suis spécialiste des bots IA génératives. Il faut vraiment s'hyper spécialiser.
De plus en plus qualifié, de plus en plus niché, du coup.
D'accord. Ouais, parce qu'en fait, on est arrivé dans une starification de l'économie. Cette starification, on la trouve dans le domaine de la musique. Dans la musique, je te dis, qui sont les stars de rap? Ou si je vais écouter une musique, je sais pas, de hip-hop, ou quelle est la star française que tu me demandes d'écouter? Tu dis, il y a ça, ça et ça. Et le but maintenant, c'est que quand on te dit, tiens, je veux un spécialiste de Google Analytics, un spécialiste de LinkedIn, un spécialiste de growth hacking, eh ben, c'est celui-là. Et donc, il faut être dans ce top 3. Et donc, il faut être vraiment focus là-dessus. Et il ne faut pas hésiter à préempter des sujets. Moi, par exemple, quand j'ai lancé en 2017 le premier bouquin sur le growth hacking, ce n'était pas trop connu à l'époque. Et c'est vrai que c'est à l'époque, c'était d'ailleurs Dulo qui m'avait dit « Écrivez-moi un bouquin sur le blogging. » Et je dis « Un bouquin sur le blogging, déjà des tonnes, ça m'intéresse pas. » Par contre, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le growth hacking. Moi, en 2017, ça commençait tout juste à arriver. Mais ça, c'est un truc qui est vachement bien. Moi, j'étais pas encore un expert là-dedans, mais j'avais commencé à me renseigner. Et je vais être présent là-dessus. Et donc, j'ai commencé à écrire un bouquin. J'ai créé des articles de blog là-dessus. J'ai commencé à me référencer sur le sujet. Et bam, je suis monté là-dessus. Après, comme je disais, je me suis un peu trop dispersé. Je suis pas resté focus sur le growth hacking. Mais c'est un moyen. Par exemple aussi, il y a 6 ans de ça, je suis arrivé chez Locan, donc qui est dans le domaine de la relation client, centre de contact. Et c'est vrai que pour l'instant, mon blog n'était pas rentré trop là-dessus. Il était sur le marketing traditionnel, la fidélisation globale. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tordu un petit peu mon blog pour venir sur cette thématique-là, expérience client. D'ailleurs, ça n'existait pas, expérience client, à l'époque. Mais tout simplement, j'ai réorienté mon site en disant, il faut maintenant que ce blog-là parle d'expérience client. Et j'ai commencé par produire des articles, à faire des transcriptions de mes webinaires, mais également un excellent tip, ce qui est là-dessus, c'est faites des interviews d'experts de votre secteur d'activité. Comme là, tu le fais là. Si tu veux devenir une référence dans ton secteur, demande à tout le monde, tiens, est-ce que tu peux m'écrire un article? Est-ce qu'on peut se prendre, comme là, on le fait quelques moments pour échanger sur un sujet? Donc, tu vas capter un peu de la notoriété de la personne. Tu vas créer du contenu inédit. Et en fait, comme ça, tu vas pouvoir devenir, entre guillemets, une référence sur le sujet. Donc, pour moi, je dirais qu'il faut vraiment être focus sur un sujet particulier. Se dire, voilà, je veux être la référence là-dessus. Je veux être la star là-dessus. Et donc, tous les mots-clés, toutes les expressions, toutes les thématiques, toutes les questions que les personnes se posent doivent être résolues là-dessus. Après, tu peux choisir deux types de contenus. Il y a le contenu, ce qu'on appelle evergreen, qui sont les articles piliers, qui sont, quelle que soit la thématique. Moi, c'est plutôt ce que je préfère, moi. C'est-à-dire que je choisis un contenu qui sera encore valable dans un an, deux ans, trois ans, ce qui permet en fait d'avoir toujours du trafic régulier, les gens qui passent dessus, et pas devoir être toujours à la course, à pédaler pour créer du contenu. Tu as une autre possibilité, c'est faire de l'actu ou du snack. C'est-à-dire que l'actu, c'est... ça reste intéressant quand tu veux te positionner sur quelques sujets. Voilà. L'actu qui est peut-être très intéressant, c'est qu'il y a une tendance, il y a une expression qui est vachement intéressante. Tu vas faire un focus là-dessus. Moi, par exemple, je l'ai fait quand on a sorti une offre de Callbot chez Locan. Et bien, en fait, je me dis, sur mon blog, je dois être présent là-dessus. Donc, j'ai écrit des articles. J'ai acheté quelques liens sponsors chez des gens que je connaissais. J'ai fait des liens sur mes quelques sites que je possédais à l'époque. J'avais un petit réseau de sites. Mais là, c'est plus possible maintenant. En fait, tu vois, il y a quelques années, les gens disaient, ouais, tu peux avoir un réseau de sites. Tu as un site éditorial, tu as ton site principal. Non, il faut vraiment tout focuser parce que ça devient tellement dur qu'il faut sur un seul site et pas s'éparpiller. Et c'est pour ça que je propose d'avoir une stratégie défensive sur certains réseaux, offensive sur d'autres. Donc voilà, et donc j'ai acheté quelques contenus, j'ai créé du contenu, j'ai fait du netlinking sur mes articles, j'ai fait de la promotion sur différents canaux, et là, bim, tout d'un coup, je suis devenu numéro un sur ce mot-clé-là parce que c'était une expression indispensable. Et après, tu as le snack. D'accord. Comme je disais, le snack, bah, tout simplement, c'est un petit contenu assez simple à mettre en place. Donc comme je disais, tu prends une publication LinkedIn, tu la réaméliores parce que c'est pas exactement la même chose, tu mets moins d'emoji, tu mets un peu plus de contenu, etc. Mais c'est également de la vidéo. Et de la vidéo, à l'époque, c'est vrai que il y a quelques années de ça, c'était mon assistante. Mon assistante, tu filais, comme dans ton entretien, 30-40 minutes de vidéo, elle me faisait 6 heures pour faire un truc qui était digeste et qui était bien montrable. Maintenant, avec ChatGPT, on a quelque chose qui est un peu plus sympa. Alors, c'est pas la panacée. Quand tu demandes de faire un résumé, c'est un peu dégueulasse. Donc, il faut quand même dire, tiens, t'as oublié ça, parle-moi de cette partie-là, ta. Mais ça me permet en fait de faire des choses que je ne pouvais pas faire auparavant. Dans le blogging, c'était quand même un peu compliqué de faire un résumé parce qu'on parle, on dit pas la même chose à l'oral qu'on le fait à l'écrit.
Exactement.
Donc il y a un retravail qui est important à faire. Et surtout, moi, ce que je fais, c'est que lorsque j'ai un contenu comme ça, je ne me contente pas de faire une transcription, mais j'essaye d'apporter de la valeur ajoutée. Par exemple, si je fais une transcription, un résumé de notre entretien, je dirais ce qu'on a dit, mais je vais oublier plein de trucs. Donc, en fait, je vais en rajouter et je travaillerai et également.
Tu vas digresser aussi, peut-être.
Exactement.
Tu vas insister, faire un zoom sur un des éléments qui aura suscité ton intérêt plus qu'autre chose.
Et on
a beaucoup parlé, du coup, on parle beaucoup là de stratégie, donc de notre côté, de notre chef. Comment est-ce qu'on rencontre les audiences? C'est-à-dire que tu dis, ben voilà, il y a 2-3 ans, j'ai décidé d'aller me concentrer sur certaines thématiques plutôt que d'autres, mais tu avais déjà une audience. Comment est-ce que ton audience te suit parce que tu es prescripteur et qu'elle te fait confiance? Est-ce que aussi tu as choisi à certains moments de te refocuser parce qu'il y avait une demande du côté de l'audience que tu as vue à travers notamment des indicateurs? On évoquera ça plus tard. Quel est le juste milieu? Comment ça se balance, ça, Frédéric?
Alors, en fait, moi, j'utilise plusieurs manières. La première chose, c'est qu'en fait, il faut vraiment distinguer le blog business du blog passion. Le blog business, en fait, on est là pour générer du leads et on est là pour générer du business. Et donc, en fait, il faut vraiment identifier quels sont les mots-clés principaux. Alors, malheureusement, maintenant, il y a vraiment une hyper concurrence. Donc, en fait, c'est compliqué d'aller trouver ces différents mots-clés. Mais en fait, il faut se dire, voilà, je parle d'un sujet et je vais essayer d'attirer les recherches, les expressions qui sont liées le plus proche possible à l'acte d'achat. Et donc, pour cela, on peut utiliser des outils comme SEMrush, on peut utiliser des outils comme Ahref, on peut utiliser COEPT, t'as vraiment des tonnes, What's My SERP, etc., etc. Et le but, c'est de se dire, OK, les gens sont en amont de l'acte d'achat, je vais créer un contenu qui va les aider et qui va les guider et ce qu'ils vont faire. Donc, c'est le fameux tunnel classique.
Oui.
Et ce qui est important de se dire, c'est que selon le secteur d'activité, il faut se concentrer sur des contenus ou pas. Par exemple, dans mon domaine d'activité qui est le centre de contact et la relation client, eh ben en fait, ça ne sert à rien de faire des articles sur, par exemple, des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un callbot, qu'est-ce que c'est qu'un callbot, oui, parce qu'en fait, c'est une demande assez nouvelle, les gens ont un besoin assez mature, donc là, tu peux capter des leads. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est un centre de contact, qu'est-ce que c'est la DMT, qu'est-ce que c'est la QoS. Là, en fait, tu es sur des personnes qui sont très, très loin de l'acte d'achat. Nous, en fait, un acte d'achat, c'est quasiment 2 ans. Donc, en fait, créer des contenus pour des gens qui sont quasiment à 2 ans d'aller acheter, oui, c'est un petit peu tôt.
Donc en fait, tu ne fais pas dans de l'évangélisation, tu fais plutôt dans l'outillage et du guidage dans
au début, ouais,
la deuxième phase, le comparatif, les meilleures solutions.
Les guides d'achat et tout ça.
Exactement, d'accord.
Alors après, il ne faut pas négliger non plus les contenus un petit peu génériques. C'est-à-dire que, par exemple, dans mon domaine d'activité, la notion d'expérience client, de parcours client, bah, c'est des éléments clés parce que les gens, ils sont vraiment en réflexion là-dessus. C'est comment améliorer l'expérience client, optimiser un parcours client digital, etc., etc. Et bah, là, il faut quand même être présent. Donc, en fait, tu as ces contenus qui existent là, qui sont un petit peu en amont, mais qui nécessitent quand même d'être présent pour aller toper les bonnes personnes. Voilà. Donc, il faut bien doser. C'est, au début, focus sur ce qui va convertir. Après, tu élargis un petit peu. Bien sûr, tu as les sites, tu as les contenus thématiques hein, qui sont là. Tu peux utiliser également avec SEMrush les performances de tes concurrents et voir en fait les mots-clés qui vont leur attirer du trafic. Et ça, j'aime bien le faire. C'est-à-dire que tu vas regarder ton concurrent, tu vas regarder quels sont les mots-clés intéressants. Tu dis, oh purée, là, il y a un super mot-clé, je ne suis pas du tout présent là-dessus. Je regarde l'article. L'article, ouais, c'est un article d'il y a 3-4 ans.
Peut mieux faire.
Et voilà, peut mieux faire. Donc, en fait, tu fais ce qu'on appelle le skyscraper. C'est-à-dire que tu vas prendre l'article et tu fais 2 fois mieux. C'est-à-dire que tu fais 2 fois plus long, tu fais 2 fois plus d'illustrations, tu fais une petite vidéo YouTube, tu fais des liens, tu fais une promotion sur ta base et sur les réseaux sociaux. Et là, bam, tu essayes de le pousser un petit peu pour le mettre dehors de cette expression-là. Donc, ça, c'est un travail vraiment de tous les jours. En même temps, en fait, tu ne dois pas te reposer sur tes loyers, tes lauriers. Souvent.
C'est en fait
ce qui se passe, c'est que souvent, dans le blogging, tu as grosso modo les 20 articles qui cartonnent bien et qui font un max de ton trafic. Donc, en fait, tu as des articles qui ont de la valeur et que tu dois garder. Tu as d'autres qui ont moins de valeur parce que ça génère du trafic sur des expressions qui ne vont rien rapporter. Mais ceux qui ont de la valeur et qui te rapportent quelque chose, ce que tu fais, c'est que tu dois les surveiller comme du lait sur le feu et savoir, en fait, est-ce que ça a augmenté par rapport à l'année dernière. Alors là, avec la nouvelle version de Google Analytics, ça fout un peu le bazar parce que les stats sont cette année un peu difficiles à comparer. Mais ça, c'est un travail qu'il est essentiel de faire au moins une fois par trimestre. C'est voir, en fait, est-ce que j'ai, par rapport à l'année dernière, par rapport à 2 ans, par rapport à 3 ans, est-ce que j'ai une baisse ou une hausse? Et à ce moment-là, je dois retravailler mes contenus. Soit, en fait, ils ont besoin d'être boostés, soit j'ai besoin de remettre des liens, est-ce que j'ai besoin de les repartager? Moi, ce que j'aime bien faire sur mes articles stars, je les partage très régulièrement sur Twitter, même si Twitter, c'est pas du trafic, mais ça permet de dire à Google, hey, toc, 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 et n'oublie pas cet article-là, il est assez intéressant.
Il vit toujours.
Voilà, il vit toujours. Je le remets à jour, je fais quelques petits trucs. Alors moi, j'ai tendance à remettre à jour surtout mes articles stars. Donc là, c'est important. Après, comme je disais, tu as les mots tendances. Les mots tendances, j'avais parlé tout à l'heure du mot voicebot, callbot, etc. Ça peut être également intéressant d'aller surfer sur des salons. On est sur le salon All for Customers et c'est un nouveau salon. Et donc, il vaut mieux être dans les premiers parce que tu peux avoir dans ton blog un article Salon Customers, les conférences à ne pas manquer. Et là, tac, tu es présent. J'ai aussi, par exemple, fait beaucoup de travail sur des marronniers. Les marronniers, en fait, c'est les trucs qui reviennent régulièrement. Par exemple, pendant quelques années, j'étais focus sur les bonnes pratiques, les bonnes résolutions.
D'accord.
Et donc, chaque année, bam, j'avais les bonnes résolutions. Et chaque année, en décembre, toi, je fais plusieurs milliers de visites en l'espace de par jour sur cette expression-là. Parce qu'en fait, je m'étais dit, tiens, je vais me positionner là-dessus, je vais faire du contenu long. Et donc, c'est-à-dire que j'ai un contenu long qui est sur le sujet. C'est vraiment important, un contenu long. Plus tu es sur une thématique concurrentielle, plus il faut un contenu long, mais un contenu en même temps synthétique. Il ne faut pas faire de la bouillie à la ChatGPT.
Il faut vraiment du concis. C'est-à-dire qu'il faut du long, mais concis. C'est-à-dire avec
de la valeur.
Plutôt que... D'accord, très bien.
Voilà,
À t'écouter, Frédéric, c'est de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on a énormément d'outils, des outils en amont pour planifier, choisir tes mots-clés, choisir tes sujets. Et puis, tous ces outils, effectivement, de mesure de la performance, mesure de l'intérêt, Tu as parlé d'outils SEO, là tu parles de Google Analytics, tu parles également de tous ces canaux. Est-ce qu'il y aurait trois outils essentiels? Est-ce que, pour pas se disperser, toi, c'est ton tableau de bord ou ta boîte à outils, il y en a combien?
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, pendant de nombreuses années, j'ai mesuré plusieurs choses. Je mesurais le chiffre d'affaires, je mesurais les leads et je mesurais le trafic. Donc là, en fait, tu as trois indicateurs qui sont pour moi les plus importants. Le problème de ça, c'est qu'en fait, à un moment donné, quand on voit son trafic baisser, on se dit « Oh là là, il faut que j'écrive des articles et il faut que je joue des mots-clés. » Quand on voit son chiffre d'affaires qui baisse, « Oh là là, il faut que je lance un nouveau produit, il faut que je fasse une promo, etc. » Et quand on a ses leads qui baissent un peu, on se dit « Oh là là, il faut que je fasse un livre blanc, etc. » Le problème de ça, c'est qu'on va en fait courir différents lièvres. Et si tout le monde va un petit peu dans la même direction, ben on a tendance un petit peu à zigzaguer au lieu d'aller tout droit. C'est pour ça en fait qu'en growth hacking, il y a une notion qui est importante qui s'appelle la North Star Metric. La North Star Metric, c'est l'étoile du Nord et c'est l'indicateur et le seul indicateur qui compte et qui te permet de définir ce que tu dois faire, qu'est-ce qui va t'apporter vraiment du business. Et par exemple, moi, j'ai arrêté de regarder mon trafic. J'ai quasi arrêté de regarder les leads générés et je me concentre en fait sur le chiffre d'affaires. Et ce qui est vraiment beaucoup plus simple parce que ça permet de définir ta ligne éditoriale, de quoi tu vas parler ou pas, les partenariats que tu vas faire, les contenus que tu vas faire. Parce que parfois, en fait, il y a aussi une tendance qu'on a tous à faire et qui est assez intéressante, c'est quand tu vois en fait tes concurrents sur LinkedIn ou qui sortent un article de blog sur un sujet, tu dis « Waouh, ils ont fait un truc, attends, je vais faire mieux, je vais générer du trafic là-dessus et t'as un petit peu une compète là-dessus. » Et oui. c'est normal et ça permet justement d'être présent sur ces sujets. Mais le problème, si tu fais ça, tu vas par exemple écrire un article sur un sujet qui est un petit peu connexe, mais qui ne va pas te rapporter de business. Et donc, c'est pour ça que la North Star Metric, en disant, voilà, c'est tel montant, c'est le chiffre d'affaires, c'est là qu'en fait que tu vas dire, non, ce n'est pas intéressant ça. Finalement, ça ne va rien m'apporter. Je ne vais pas perdre de temps sur ce sujet. C'est pour ça que moi, donc, l'indicateur principal, en fait, restera le CRM, dans lequel, en fait, on a tout simplement, d'un côté, les campagnes et les sources de trafic. Alors, les sources, c'est quoi? La source, en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui a été à l'origine de l'affaire. La campagne, c'est la dernière chose qui a généré l'action, qui peut être un livre blanc, un emailing, un article de blog, blablabla. Et en fait, ça te permet de te dire, mais est-ce que ça a été véritablement efficace? Voilà. Et donc, c'est ça qui est pour moi l'essentiel, c'est quel a été le business qui a été généré. Si c'est compliqué à faire, parce que dans le B2B, moi, je dis les cycles d'affaires de 2 ans, c'est pas évident de mesurer en fait la rentabilité d'un blog, même si on le voit au niveau SEO, trafic, etc., etc. Puis, machin. Donc, dans ces cas-là, le mieux, c'est quand même d'aller travailler sur le nombre de leads générés, leads prospects, hein, ou téléchargements, oui. etc. Et là, ça donne un premier niveau. Voilà. Si moi, je dirais ça. Après, au niveau des outils, moi, c'est vrai que j'utilise SEMrush depuis très, très longtemps. Je trouve que c'est une bonne plateforme qui est assez complète, qui donne une bonne idée du trafic et de l'évolution. Il y a un petit alerting où on reçoit si on est en hausse, si on est en baisse, etc. Oui. etc. Donc, je trouve que c'est un outil qui est pas mal, qui permet d'analyser les concurrents. Donc, c'est un outil qui est un petit peu cher, mais au moins, prenez-le un mois. Faites un bilan pendant un mois, générez un petit peu des rapports, utilisez-les, puis après, hop, vous passez à autre chose, soit vous savez, 50 balles ou 100 balles. Faites cet investissement-là, ça suffit largement. Après, si j'avais un deuxième outil, je donnerais quand même ChatGPT, même si je ne suis contre la création de contenu 100% automatisé, ça aide pour 2 choses. La première, par exemple, tu vois, j'ai un second blog qui s'appelle comparatifcrm.com. Ce blog-là, en fait, c'est des contenus assez light, j'ai pas besoin de faire du qualitatif, c'est vraiment pour faire de la génération de leads. Et ben c'est vrai que dans ces cas-là, ChatGPT me donne une bonne base de travail que je retravaille, mais je me donne un temps limité. Par exemple, quand je fais un article de blog, moi je ne veux pas mettre plus de 2 heures, 3 heures pour un article de blog. Sur comparatif CRM, je me dis il me faut une demi-heure max. Donc quand j'ai dépassé ce timing-là, hop, je speed pour écrire le contenu. Donc ChatGPT aide à faire cette phase de travail, mais également pour les très bons articles de blog, ChatGPT est très utile pour les définitions, pour les concepts, pour les résumés de bouquins, pour tous ces trucs un petit peu générique qui apporte pas de valeur, où là, en fait, tu gagnes vraiment de temps. Ou alors, tu prends un article de blog, tu demandes à ChatGPT de le réécrire en mode conversationnel pour LinkedIn avec des emojis en mode liste, tac, ça fait le job et ça te fait gagner vraiment du temps. deuxième outil, ChatGPT. Je dirais troisième outil, je vais être assez simple là-dessus, c'est des outils de réalisation d'images. Alors, ça peut être DALL-E avec ChatGPT, ça peut être des outils comme Leonardo, par exemple, comme Midjourney, qui permettent d'avoir des visuels un peu sympas. Moi, j'attends beaucoup de DALL-E, une nouvelle version, parce que les visuels créés par DALL-E sont pas très beaux. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, tu peux leur mettre du texte. Et je trouve que le prompt est plus facile à faire. Voilà. Donc, c'est un truc à faire. Après, c'est pas le seul moyen. Moi, par exemple, je suis pour un mix humain. Et il y a, par exemple, pour la rédaction de contenu, je ne demande pas à ChatGPT de me faire l'article. C'est-à-dire que j'ai une structure qui est assez simple. C'est je définis un sujet. Je vais me faire un plan relativement macro avec les différents items. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Donc, j'ai mes différents items avec un cheminement dédié, avec mes exemples, etc. Suite à cela, en fait, je commence à rédiger. Si en fait à la fin ce que j'aime bien faire c'est compléter avec un petit peu de ChatGPT des trucs un petit peu basiques, je fais également aussi ce qu'on appelle la veille rédactionnelle. Et en fait tout simplement c'est quand j'ai écrit mon article, pour pas être pollué et pour surtout pas faire comme les autres, ce que je fais c'est que je vais regarder après sur internet, surtout en anglais, si j'ai pas loupé des idées. Et ça me permet de vraiment boucler le sujet et d'être sûr de ne rien avoir oublié, parce que c'est ce que les gens cherchent dans un contenu d'exception, c'est d'expertise. Et ce contenu d'expertise, après, bien sûr, il faut le réutiliser en multicanal, que je t'avais parlé de l'emailing, newsletter, machin, etc., etc. Exactement. Parce que c'est vraiment la valeur. Le quatrième outil. C'est parce qu'on m'envoie beaucoup d'articles, et si vous faites appel à des rédacteurs offshore, etc., je vous recommande d'utiliser des outils de détection de contenu générés par l'IA. Donc, il y a opportunity.ai, il y en a plein d'autres comme ça, qui permettent en fait de vérifier ça, parce que moi, de plus en plus, je suis comme ça, j'ai des gens qui me disent, merde, il y a quelque chose qui est bizarre. On sent la patte. Oui. Et tu passes à l'outil, il dit, bon, il y a des chances que ça soit généré par l'IA. Alors, ça marche pas tout le temps, mais ça permet en fait de détecter les bons outils. Et s'il y a un dernier outil qui sera intégré à WordPress, c'est RankMath SEO, qui est vraiment un très bon outil qui permet d'optimiser son article de blog, vérifier qu'on n'a rien oublié, etc., etc. Après, tu as Language Tool aussi, qui est un très bon outil pour les corrections d'orthographe. Enfin bref, il y en aurait des dizaines que je pourrais te...
Oui, je vois, effectivement. D'accord, très bien. Tu parlais justement, tu as beaucoup insisté à raison sur l'expertise, et précisément, sachant que le blog est un véhicule de partage d'expertise, de génération aussi, de vision prospective sur l'avenir du métier, l'avenir du secteur. Quelle technique, toi, tu encouragerais les responsables marketing à explorer pour que le blog soit un vrai vecteur d'influence au niveau du secteur et puisse aider à diffuser des idées novatrices? Tu as parlé tout à l'heure, donc là on parle de leadership éclairé, tu as parlé tout à l'heure d'interviews d'experts, d'échanges comme le nôtre par exemple, tu fais des webinaires également. Quelles seraient tes recommandations, toi?
Alors, en fait,
c'est le blog comme outil de leadership éclairé.
Alors, déjà, la première chose, c'est c'est vraiment important, même si c'est pas tout à fait la réponse à ta question, c'est se dire combien va me rapporter le blog. Parce que le problème, c'est que on arrive rapidement à un épuisement du blog et beaucoup de blogs sont laissés de côté parce qu'on ne voit pas le ROI. Donc, au-delà de dire, ouais, je vais donner de l'expertise, faut se dire cette expertise doit être au service du business. Autrement, il sera laissé tomber et ça sera la cinquième roue du carrosse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc mettre des formulaires, générer du leads et vérifier ce tracking-là. Quand on a fait ça, on se dit, OK, ça me génère du business, donc c'est utile. Une fois qu'on a dit que c'est utile, on se dit, comment je vais faire pour que ça donne plus de visibilité? Et donc, moi, ma philosophie, c'est quand tu débarques dans une thématique ou quand tu veux élargir ton audience et améliorer ta visibilité, le meilleur moyen, donc, c'est de faire un petit peu contribuer les gens, faire des avis d'experts, que ça peut être la vidéo, du podcast, la tribune, enfin, peu importe. Là, en fait, ça permet d'aller prendre des choses. Mais ça ne te donnera pas, en fait, ta propre vision à toi. Et donc, derrière, là, il faut apporter ta propre vision qui est précise, pointue et surtout des informations métiers. Il ne faut pas hésiter, justement, à parler de ton expertise, donner ton point de vue. Limite, en fait, je serais tenté de dire que là, je ne le fais pas encore, mais c'est tutoyer les gens, avoir cette proximité et être engagé et véritablement donner un avis du terrain, un avis concret. C'est ça que recherchent les gens dans ce phénomène de starification. Il faut quelqu'un qui, en qui on ait confiance, et on se dise, mais ce gars-là, il a véritablement l'expertise. Mais tu sais que ça, ça peut être tellement, ça peut être même fabriqué. Je te donnerai un exemple. Il y a 4 ans de ça, on a lancé nos projets chatbot chez Locan. On n'avait pas d'expertise, on a racheté une petite boîte et on n'avait pas du tout de crédibilité. Enfin, on n'était pas connu pour ça. Et pourtant, en fait, à force de créer du contenu, discuter avec les gens, discuter avec des experts, discuter avec des clients, et à ce moment-là, tu dis, ah tiens, ça c'est intéressant, créer du contenu. Et finalement, au début, on n'avait aucun client, et on en a eu par la suite, mais on a créé une notoriété, une visibilité sur ce sujet, alors qu'on n'y connaissait rien. Tout simplement parce que on s'est posé les bonnes questions, et surtout, on ne garde pas en interne. Ça, c'est souvent un défaut.
La logique de don et de contre-don.
Voilà, parce qu'en fait, les gens disent « Non, mais je vais pas dire ça, c'est mon expertise, c'est mon savoir-faire. » Non, c'est au contraire, si ça a d'expertise, si ça a du savoir, c'est là qu'il faut le montrer. Et c'est parce que c'est cette expertise-là, ce retour terrain qui doit être mis en avant. Et c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah tiens, c'est intéressant ce que tu me dis. Ah ouais, ça me pose des questions. » Ou tu te dis « Tiens, j'aurais bien aimé savoir ça. » Et c'est pour ça que moi, je sais, quand j'écris un bon article de blog, c'est qu'à la fin, je me dis « Waouh !» Même moi, j'aurais appris un truc. Et même moi, je serais content de relire cet article-là. Et quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que vous êtes arrivé au bon endroit, c'est-à-dire que vous apportez la bonne valeur. Mais la clé après, c'est pas juste écrire pour soi-même ou écrire pour le plaisir. C'est pour ça que j'en parlais en introduction. C'est que le blog devient compliqué à avoir c'est bien compliqué d'avoir la visibilité de manière naturelle pour le blogging. Et donc, il faut vraiment pousser ces contenus de blog sur différents canaux. Alors, tous ne sont pas adaptés.
C'est le côté omnicanal, en fait. C'est vraiment avoir une vision et une stratégie omnicanale.
Ouais, parce que le SEO devient vraiment très dur. Même moi, tu vois, je trouve que c'est devenu compliqué avec la génération de contenu automatisé.
Oui.
C'est dur de lutter. Et donc, il faut garder cet aspect expertise. Et on voit bien ceux qui réussissent et qui restent encore, ce sont les gens qui font du contenu expert, qui font du contenu évolué, du contenu avancé avec des cas clients, des cas pratiques, des checklists, des to-do, etc., etc. Et il faut pas hésiter à faire du contenu long. Alors, il faut du snack, mais il faut du contenu long parce que le contenu snack, en fait, reste visible pas très longtemps et c'est pas forcément quelque chose qui va durer.
Au fond, l'intérêt aussi, du coup, de cet essor de l'intelligence artificielle générative, c'est que par contraste, ou sous forme de bénéfices secondaires, ça stimule la créativité, ça stimule l'authenticité, l'originalité, la singularité.
Ah oui, plus il y aura d'IA génératif, plus il faudra avoir un blog qui sera positionné sur un sujet et c'est vraiment essentiel là-dessus. Si on reste en fait sur du contenu générique, et ben en fait autant aller regarder ChatGPT, autant regarder autre chose.
Non, oui, il faut apporter ou Wikipédia.
Ouais, il faut apporter cette chaleur ajoutée qu'on voit dans le blogging. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et même, ça m'est arrivé parfois, là, je ne l'ai pas fait depuis un certain temps, mais c'est de prendre un article de blog et après le faire un screencast, c'est-à-dire le filmer à l'écran en le lisant et en faisant après un podcast, ce qui permet en fait d'avoir une pensée qui est beaucoup plus concentré et diffuse en valeur ajoutée. Parce qu'autrement, quand on discute ensemble, tu vois, on part un petit peu dans tous les sens. C'est pas très concentré. Par contre, quand tu lis un article de blog que tu as écrit, tu rajoutes des choses en plus. Une structure et une densité de valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante.
Est-ce que du coup, parce que je vois l'heure qui tourne et puis je parlerai encore des heures avec toi, Frédéric, mais en conclusion, après ce parcours ou ce survol de l'évolution du blog aujourd'hui tu dirais en 2024, comment est-ce qu'on planifie l'évolution et la direction de son blog au vu justement de toutes ces technologies émergentes, ChatGPT et consorts? Et comment anticiper l'évolution future du blog? Est-ce que tu penses que le blogging a encore un avenir prometteur?
Alors, il faut savoir, il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est qu'en fait, les nouvelles générations aiment peu ou pas l'écrit. Et on voit en fait l'essor de la vidéo très courte à la TikTok fait que, en fait, malheureusement, il y aura une érosion lente mais progressive du blogging. Mais le blogging reste quand même important, à la fois pour des notions d'image, de valeur ajoutée, et le fait qu'on ne va pas se taper des vidéos, des podcasts, des vidéos très 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 longue en peu de temps, qui dure longtemps. C'est le média écrit est là pour poser de l'expertise. C'est un peu comme entre un livre et un discours. Un livre va poser un sujet, va permettre de réfléchir à un sujet, d'apporter de la valeur. Et donc, en fait, ça reste important, mais ça s'adressera plus à, c'est plus la seule source de communication. Donc, il faut dire que le blog doit être un outil, comme je dis, c'est le camp central, c'est ton camp de base pour aller, en fait, mener des razzias sur tes différents réseaux. Il faut avoir toujours ce camp de base là, mais ce camp de base a une base de trafic qui va baisser, liée à l'IA générative, liée au comportement des nouvelles générations, liée aussi à la fainéantise des gens. On voit bien que lire du contenu, c'est long, c'est chiant. Parfois, les gens disent « Ah, mais c'est super long tes articles, j'ai pas le temps de le voir, etc. etc. » Donc, en fait, il faut se dire ça, que le blogging va perdre peut-être bercer, mais il faut rester dans ce sujet-là parce que c'est ça qui permet de définir comme toi un expert, mais également réfléchir. C'est que les gens ne se rendent pas compte que, à force de réfléchir, d'écrire quelque chose, tu deviens toi-même un expert du sujet et tu matures dans ta réflexion. Et par exemple, quand j'écris des bouquins, moi, là, je vais sortir un bouquin sur le marketing de la déconsommation dans à peu près 3 mois, là. Et ben, en fait, j'ai commencé par écrire des articles de blog sur le sujet pour me positionner. Encore une fois, pour me positionner sur le sujet, mais également pour maturer ma réflexion. Et en fait, grâce à ça, ça te permet d'évoluer. Et après, bien sûr, tu partages sur tes différents canaux et tu as un support de base, en fait. Et les gens qui sont intéressés, et ben, en fait, forcément, ils vont voir ça, ils vont voir cette expertise, ils vont dire, waouh, c'est la référence dans le domaine. Donc, pour moi, le blogging reste hyper important. Il faut apprendre à maîtriser l'humain et en même temps le digital, et faire vraiment un duo des deux et garder le meilleur des deux, parce que le contenu généré par l'IA pour l'instant, c'est un peu de trop corporate, trop lustre, blabla, et ça n'apporte pas assez de valeur ajoutée. Et l'humain à 100%, parfois aussi, c'est beaucoup de temps, et pour un ROI qui n'est pas forcément évident. Donc, il faut vraiment utiliser les deux. Et par exemple, pour créer du contenu à valeur ajoutée, tu peux très bien interviewer les experts de ta boîte, et tu prends un déj, tu dis, tiens, on déj ensemble, et tu vas me raconter un petit peu ce que tu fais. Tu prends le téléphone, et hop, tu enregistres quelques informations.
Oui, ça montre aussi que dans l'évolution du blog, c'est que ça devient un média, riche média à part entière, parce que tu vas avoir des articles sur lesquels tu as l'alternative aussi audio, c'est-à-dire que tu peux écouter l'article, on met les temps de lecture aussi sur les articles. Aujourd'hui, on intègre de la vidéo, tu as différents formats. Donc, le vieux blog à l'ancienne où on était sur du texte avec le calendrier sur le côté, des tags et des catégories, est aujourd'hui devenu presque un magazine à part entière avec une variété de formats, du court, du long, comme tu dis, de l'audio, de l'interview, de l'article collaboratif, des articles listes, etc. Donc, il y a encore de l'avenir, pour autant qu'on prenne en compte, si je t'écoute bien, ben, tous les nouveaux modes de consommation du contenu également, et en restant bien ciblé toujours sur son propos, la North Star métrique.
Okay, c'est là super. Où en fait qui permet de filtrer c'est toutes ces tendances, parce que c'est vrai que on peut être happé, tenté de faire plein de choses, et tandis que si on se dit non, mais c'est ça qui est important, ça permet de cadrer les choses et cadrer son sujet.
Eh bien, nous resterons sur cette étoile du Nord. Un grand merci, Frédéric, pour cet échange passionnant. Et ben, rien que ça, ça mériterait effectivement qu'on en fasse sur chacune des questions encore d'autres podcasts pour pouvoir approfondir. Je te remercie pour cette émission, pour ce temps. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci à toi. Bye bye.